Fjord de culture générale. L'humanité, pour nous, elle se compose de deux parties. En fait. D'un côté, il y a les Bnei Israël, c'est-à-dire ceux qui sont les descendants d'Israël, les descendants de Jacob, par le biais des enfants de Jacob, des tribus. Et le reste du monde s'appelle Bnei Noach. Alors, ils sont descendants de Noach par le biais des trois fils de Noach, les trois antédiluviens, les trois qui ont survécu donc au déluge. Il n'y aura pas de Ham et Nan se sont arrangés pour que Noach n'ait pas de quatrième enfant. Il n'en voulait pas. Donc, tout le monde descend des trois fils de Noach. Alors, en fait, les Bnei Israël, ils descendent aussi de Noach, mais il y a quelqu'un qui est passé 10 générations après Noach, qui s'appelle Abraham, qui lui a donné une autre dimension, c'est-à-dire dans l'ensemble des Bnei Noach, il y a une partie qui est devenue Ben Noach plus. Quelque chose qui dépasse Bnei Noach et qui s'appelle Bnei Israël. Et du coup, on n'est plus Bnei Noach, on est seulement Bnei Israël. Sur l'histoire des Bnei Israël, la Torah, la Mara, qu'est-ce qu'on sait des Bnei Noach? Alors, de la même manière que pour les Bnei Israël, on va rechercher, on remonte jusqu'à Abraham, Yitzhak, Yaakov, les autres, etc. Et bien, si on va rechercher la source des Bnei Noach, on va remonter jusqu'au Bnei Noach, jusqu'à Noach, disons même. Alors, Noach, qu'est-ce qu'on en sait? La Torah, qu'est-ce qu'elle nous en dit? Elle nous dit des choses sur le Noach d'avant le déluge. Elle nous dit pourquoi il a été sauvé, lui et ses fils du déluge. Mais du Noach qui, d'après le déluge, dont la Torah dit qu'il a vécu 350 ans après le déluge, on sait qu'une seule chose. Il s'est enivré. S'est dégradé et ça s'est mal terminé pour lui. C'est tout ce qu'on sait sur Noir. D'une certaine manière, c'est tout ce qu'on sait explicitement dans la Torah sur les Bnei Noir. D'abord, ça a l'air complètement anecdotique. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire que Noach soit enivré dans sa tente, il a fait de mal à personne. Et d'un autre côté, si la Torah a jugé nécessaire de nous raconter cela, et que c'est la seule chose qu'elle nous ait dit sur Noach, il faut aller chercher quand même du sens, un sens important pour les Bnei Noach dans la démarche de Noach. D'autres termes, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Noach s'est enivré? Alors, il y a toutes sortes de réponses qui ont été données. Certains disent que Noach, il buvait avant aussi. Mais avec le Maboul, les choses ont changé. Donc, la quantité de vin qu'il buvait avant ne le rendait pas ivre. Il y a eu un changement et le vin est devenu plus agressif. Et il a bu la même chose que ce qu'il buvait d'habitude. Seulement, cette fois-ci, il s'est enivré. une possibilité. Mais bien sûr, sauf à nous dire par ce biais-là que les choses ont changé, la végétation a changé, etc. Bon, c'est une façon un peu tordue de le dire, quoi. Ça n'a pas l'air tellement suffisamment important pour que on puisse dire que c'est ça que ça vient nous enseigner. N'y a pas vraiment d'explication satisfaisante qui permette de justifier que la Torah nous raconte cette histoire. D'abord qu'elle le raconte, alors que ça a l'air d'être une anecdote. Et surtout qu'on ne sait pas qu'en faire. La Torah, c'est un enseignement. Quel enseignement on peut tirer de là? Faut pas se saouler. Ok, d'accord. Alors, on va rester avec la question pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est on va aller, on a regardé la naissance des Bnei Noach, quoi, le tout début. On va aller à la toute fin des Bnei Noach. C'est-à-dire qu'on va aller à l'Atid Lavo. L'Atid Lavo, dans le grand futur, si vous voulez, la Gemara, dans Masechet Avodah Zara, au début, Daf Bet Amoud elle enseigne la chose suivante. À ce moment-là, l'Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu va prendre un Sefer Torah, le rouleau lui-même, et il va le prendre tout contre lui, tricot. C'est une manifestation. C'est pour montrer que cette chose-là, elle lui tient à cœur et que c'est très important. Et quand je vous va dire, tout celui qui s'est occupé de ça, et il a pointé le Sefer Torah, il vienne pour toucher son salaire. Alors bon, en soi, c'est déjà assez remarquable qu'on ne dise pas que Hachem, il utilise pas le nom du Sefer Torah, quoi. Hachem ne dit pas que tout celui qui s'est occupé de la Torah, ou qui s'est occupé de ça. Alors, tous les peuples se sont précipités pour venir chercher leur salaire. Comprends pas. Hachem a dit, tout celui qui s'est occupé de ça, il a un salaire. Là. Ils viennent tous, ils ont tous un salaire, ils sont tous de ça. On est à la fin, c'est devant Hachem, on est à la fin des temps. Le Hémet, tout le monde comprend, on a compris ce qui s'est joué. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne peuvent pas venir raconter des mensonges. Alors en fait, ils ne viennent pas du tout raconter des mensonges. À la fin de l'histoire, on verra. Fin de l'histoire, c'est quand tout le monde aura compris que ce que les Israël faisaient, c'était la chose à faire. Et ils ont aussi que tout le monde a compris. En réalité, tout ce qui a été fait dans le monde n'a été fait parce que ça servait à la diffusion, à l'amplification de la Torah. Tout a servi à cela. Par conséquent, ils se rendent compte que, alors, tout ce qu'on a fait, en vérité, ça a servi au peuple d'Israël. Donc, on peut venir réclamer un salaire. Donc, je veux juste faire une remarque que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais quand Hachem a créé Adam Harishon, il lui a donné un travail à faire. Il l'a mis dans le Gan Eden. Il lui a dit, tu dois garder ce Ishmor, mais où le, tu dois le Ovdo ou le Shomro. Tu dois travailler le Gan Eden et tu dois le garder. On a déjà dit plusieurs fois que travailler, faire quelque chose, c'est l'ensemble des mitzvot assez positives. Et l'Ishmor, Shmirah, c'est les mitzvot assez. Donc ça veut dire que Adam savait que il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. On n'avait pas besoin de lui expliciter. Adam, il est suffisamment proche d'Hachem pour comprendre tout cela. Mais bon, Adam s'est cassé la figure. Il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Alors du coup, la tâche, elle incombe à l'humanité tout entière, aux descendants d'Adam. Mais ces descendants d'Adam, à un moment donné, ils vont faire quelque chose qui en soi est est une bonne chose, mais qu'ils le font pour des mauvaises raisons. Voilà. Obtenir une union du monde entier, tout le monde va se rassembler et ils vont construire la fameuse tour de Babel. On prie tous les jours. Par exemple, dans Rosh Hashanah, Kippour, Viyasu Kulam Aguda Kulam, les goyim aussi. C'est pas que les goyim vont devenir les juifs. Mais tout le monde va servir, va comprendre qu'il faut servir Hachem. Il y a des tâches différentes, mais tout le monde va comprendre. Mais eux, ils se sont disqualifiés à la tour de Babel. Le Ramchal explique que comme ils ont fait quelque chose qui leur donne un pouvoir énorme, qui est ce qu'on attend, mais au lieu de le faire pour le bien, ils l'ont fait pour le mal. C'est-à-dire que souvent, justement, ce travail de regroupement, qui est quelque chose qu'on doit faire, par exemple, on a besoin d'un minyan, etc. Et la première occurrence d'un minyan dans la Torah, c'est Haéda Hara'a Azot. C'est la Haéda, c'est le rassemblement des 10 explorateurs qui ont entraîné le peuple à refuser d'aller en Eretz Israël. 10 des 12. Et 10, sauf Yoshua et Caleb. Donc la notion de Haéda, elle a existé déjà. D'abord pour le mal. C'est seulement plus tard qu'il va y avoir Adat Yeshurun, Adat Israël, etc. Kolaïda. Le rassemblement, il a lieu ici pour le mal. Là aussi, le rassemblement de l'humanité, il est là pour faire la tour de Babel, pour se révolter contre Hachem. Et donc, à ce moment-là, les peuples se sont disqualifiés. Et du coup, le projet d'Hachem, ben, il est à l'eau, quoi. C'est raté. Ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, émerge Abraham. Abraham, il est contemporain de la tour de Babel. Le patron de la tour de Babel, c'est Nimrod. Et Nimrod, c'est l'ennemi d'Abraham. Celui qui va jeter Abraham dans la fournaise. Et Abraham dit, mais moi je vais essayer, je vais le faire. Hachem va tester ce type-là qui, bon, qui va parler à mon peuple, on va faire le travail. Un bonhomme, il est stérile, il est marié à une femme stérile. Il vous parle de mon peuple, etc. Hachem le teste et il le trouve bien. Donc, tout commence là, mais ça aussi, ben, vous savez bien, ça va échouer à l'esclavage en Égypte. Ou comme dit Rambam, on a quasiment tout oublié, l'enseignement d'Abraham, sauf la tribu de Lévi qui s'en rappelle un peu. Donc, ce que fait Abraham, donc ce que fait le clan d'Israël, il le fait pas pour lui seulement. Il le fait pour l'humanité. C'est quelque chose qui incombe à l'humanité et que l'humanité en tant que telle ne fait pas. Et Abraham, il dit, ben, moi, je vais le faire. Et quand je l'aurai fait, alors on dira, l'humanité l'a fait. Ce qu'on fait, ce que les Bnei Israël font, c'est pas pour eux. Le Mashiach, il vient pas pour les Bnei Israël seulement. Il vient pour le monde entier. Alors, les goyim ne vont pas devenir des juifs pour autant, mais ils vont comprendre, par exemple, ils vont servir les Bnei Israël qui, eux, vont étudier la Torah. Si vous voulez, c'est quelque chose que, à l'intérieur du clan Israël, on a déjà fait. Tout le clan Israël entretient les Leviim Kohanim, qui eux se spécialisent dans l'étude de la Torah, aussi un peu dans le Beth Amikdash, et ils sont à la charge des Bnei Israël. Ils vivent de ce que les Bnei Israël leur donnent. Ils n'ont pas de source de revenus ailleurs. Donc c'est comme si, à la fin des temps, il va y avoir un glissement, c'est-à-dire les Bnei Israël vont jouer le rôle des Kohanim, les Kohanim. Et les goyim vont jouer le rôle du clan Israël. De ce point de vue-là, ils vont entretenir les Bnei Israël, mais l'Artan n'incite à l'idée Acherim. Mais pas parce qu'on va les obliger, parce qu'ils vont comprendre. Ben, bien sûr, je veux en être. Et c'est comme ça que je vais en être. Mais a priori, ils ne vont pas se convertir. D'ailleurs, on n'accepte pas les conversions quand le clan Israël est au top. D'accord, donc. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu leur dit, si vous êtes occupé de Torah, vous avez droit à un salaire. Mais Hachem sait très bien qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Il n'y avait pas de kollelim pour goyim. Mais si vous êtes, c'est pour ça qu'il dit, vous êtes occupé de ça, d'une manière ou d'une autre, les alliés objectifs des Bnei Israël, vous avez aidé les Bnei Israël sur cette manière, vous avez droit à quelque chose. Alors, comme ils viennent tous ensemble, alors Hachem dit, moi, je veux pas que tout le monde vienne ensemble, parce que je veux juger chaque peuple, donner à chaque peuple, et les gens, ils vont être troublés par ce qu'on dit à l'autre peuple, etc. Donc, chacun vient. Donc, les premiers à venir, c'est Rome. Pourquoi Rome? Rome, parce que c'est la, pour les Chachamim, c'est la puissance dominante. Et Rome, c'est Esav. Et comme on sait, Esav et Ishmaël, ce sont les deux peuples qui vont durer jusqu'à la fin des temps. D'autres peuples vont avoir des trajectoires éventuellement très, ils vont devenir très importants, mais après quasiment disparaître. Donc viennent les Romains. Et alors les Romains disent, voilà, nous, on a organisé des grands marchés, des foires. On a construit des bains publics. Et on a augmenté l'or et l'argent dans le monde. Et tout cela, on l'a fait que pour les Bnei Israël. Et ils veulent pas dire par là, nous, notre kavana, c'était ça. Mais maintenant, on comprend que tout ça a été fait pour les Bnei Israël. Westhoff, il disait sur cette Gemara, il disait que quand on a construit le transsibérien, pourquoi est-ce qu'il a été construit? Pourquoi tout à coup on a construit le transsibérien? On a construit le transsibérien hein, pour permettre à la yeshiva de Mir de se sauver et d'arriver jusqu'à Shanghai. C'est pour ça. Peu sur chaque chose, grande chose qui a été faite, on peut réfléchir sur en quoi est-ce que ça a été utile pour les Bnei Israël. Là, en l'occurrence, ça les a sauvés. Dans l'autre cas, ça a simplement permis aux Bnei Israël de travailler plus vite. Par exemple, qu'est-ce que ça change qu'il y ait des foires? Quand il y a des foires, ça permet aux Juifs de gagner leur parnassa en 15 jours de foire, au lieu de la gagner tous les jours pendant 3 ou 6 mois. Et donc, ça a servi aux Bnei Israël pour les Bnei Israël vont pouvoir étudier. On a gagné, on a travaillé pendant 15 jours et après, on est tranquille. Les bains publics, ça permet à gagner. L'hygiène de tout le monde, ça permet de se sentir bien, etc. Donc, tout ça, ça aide. Alors, quand le Bokhol ne leur dit pas, vous êtes des menteurs, il leur dit, vous êtes des idiots. Parce qu'en réalité, ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous-même. C'est-à-dire, il n'y avait aucune dimension de chesed dans ce que vous avez fait. On ne parle pas de chesed fait pour les Bnei Israël. On parle du fait que ils n'ont rien fait pour les peuples qu'ils ont conquis, qu'ils ont dominés. Ce qu'ils faisaient, c'était pour eux. On voit très bien que les gens qui dominent, ils s'occupent pas du tout du bien-être de ceux qu'ils dominent. Aujourd'hui, à la limite, à Gaza, les gens auraient pu se réfugier dans les tunnels. Il y aurait eu beaucoup moins de monde, de morts. Ils n'ont pas le droit d'aller dans les tunnels. Les tunnels, c'est pour les combattants de Hamas. Ils n'ont pas eu le droit d'aller là-bas. Comment tu peux justifier de sauver les vies en les laissant aller dans les tunnels? Bon, il y aurait eu aussi des morts, mais pas autant. Pas du tout. Non seulement ils prennent les gens comme des boucliers humains, mais en plus, il y a la possibilité de les sauver, d'en sauver beaucoup. Alors Hachem leur dit, si vous avez construit, vous avez fabriqué des... Organiser des foires, etc. C'est pour y installer des prostituées. Si vous avez construit des bains publics, c'était pour votre jouissance. Et l'or et l'argent, c'est pas vous. L'or et l'argent, c'est moi, dit Hachem. Vous n'avez pas créé l'or et l'argent. De l'or, vous n'êtes pas créateur de l'or. C'est moi qui ai créé l'or. Qui sont embêtés. Alors, Hachem demande, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a dit quelque chose de l'ordre de la Torah? Ça veut dire, on pourrait dire, est-ce que dans les codes de loi, etc., vos codes de loi, est-ce que il y a des éléments que vous auriez pris à la Torah? Il n'y en a pas. Donc, ils n'ont rien à voir avec la Torah. Rien de rien. Donc, ils sont virés. Les Romains sont virés. Les deuxièmes qui se présentent, ce sont les Perses. Donc, la première question qu'on a, c'est, ayant vu que les Romains se sont fait virer, qu'est-ce que les Perses espèrent? Ce qui a été dit aux Romains peut être dit exactement aux Perses. Ils vont dire des choses, mais on peut leur faire la même réponse qu'aux Romains. Alors eux, ils pensent, nous, on est mieux que les Romains parce que les Romains, ils ont détruit le Beth-Amikdash et nous, on a construit. Donc, c'est vrai, on a un petit avantage. Le deuxième Beth Amikdash a été construit avec la permission de Cyrus et Darius, etc. Alors les Perses viennent et ils disent, nous, on a construit des ponts et on a conquis des villes et des villages et on a fait des guerres. Alors des ponts, c'est fait pour permettre la communication, la circulation des gens. Les gens peuvent se rencontrer, etc. C'est magnifique, quoi, quelque part. Ce qu'ils ont conquis et tout, ils ont apporté la civilisation perse, là. C'est une grande civilisation. Et puis, faire des guerres, on sait très bien que il y a beaucoup de choses qui sont possibles pendant la guerre, des efforts qui sont possibles pendant la guerre, qui ne sont pas possibles en dehors de la guerre. Alors Hachem leur dit à eux, les ponts que vous avez construits, c'est pour y mettre des péages. Les villes, villages que vous avez construits, c'est pour prendre les jeunes gens de ces villes et des villages et les incorporer à vos armées. Et la guerre, c'est moi, dit Hachem. Hachem Ishmael Rama, c'est moi qui fais la guerre, c'est pas vous. Même chose, est-ce que vous avez dit quelque chose? Rien du tout. Excite les Perses. La Gemara dit, et tous les autres peuples, c'est la même chose. On a présenté ces deux-là parce que c'est, d'après ça, ça a l'air d'être Esav et Ishmaël. Alors c'est intéressant parce que ça présente Ishmaël comme étant les Perses, pas les Arabes. Les Perses, ce n'est pas des Arabes. Bon, c'est vrai que dans ce cas-là, Ishmaël, c'est quoi? C'est les musulmans. C'est en tant que musulmans, ce n'est pas en tant qu'arabes. Ce ne sont pas arabes, les Perses. Et donc, si on veut, c'est Esav et Ishmaël, donc c'est aussi le christianisme et l'islam, qui se réclament de la Torah aussi. Il y en a qui disent, c'est nous le véritable Israël. Les autres qui disent, tous les prophètes, c'est rien du tout, il n'y a que Mahomet qui est le vrai prophète. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Ils sont jugés. Et qu'est-ce qu'on leur dit en réalité? L'accusation, c'est quoi? C'est que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait uniquement pour vous. La Torah, elle est chesed depuis le début jusqu'à la fin. La création du monde, c'est le chesed. L'enterrement de Moshe Rabbeinu, c'est le chesed. Et tout au long de la Torah, il y a plein de chesed qui est de toutes sortes. Ce qu'on a lu ce Shabbat, ça commence par Bikur Cholim, comme on avait dit au Shiur, je crois, de Chumash. Il n'y a pas de mitzvah de Bikur Cholim, c'est pas une des 613 mitzvot. Et d'ailleurs, dans tout le Sefer, toute la paracha de Vayera, d'une paracha de Chesed, Parnassat Orchim, etc. Et il n'y a aucune mitzvah dans la paracha de Vayera. Aucune des 613 mitzvot. On avait expliqué, donc, vous souvenez, les 613 mitzvot, c'est 613 principes généraux. Et tous les textes dans lesquels il n'y a pas de mitzvah explicite sont des textes qu'il faut étudier et dont on va pouvoir tirer toutes sortes de détails, parce que ces 613 principes, dans les détails, c'est sans fin, c'est dans les détails de toutes les mitzvot. Et où est-ce qu'on trouve les détails? Dans les récits, dans la partie de la Torah qui raconte des conduites, etc. Quelqu'un qui attend, là. Utilisateur de Zoom, je sais pas qui c'est. Vous êtes qui l'utilisateur de Zoom là? Vous pouvez vous présenter? Oh. Pardon? Vous pouvez vous présenter, utilisateur de Zoom? Parle pas, hein? Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Roger Lupescu.
Ah, c'est monsieur.
Roger Lupescu.
D'accord. Vous êtes le bienvenu. D'habitude, vous avez votre nom.
Excusez-moi, je n'ai pas réussi à mettre mon nom.
Oui, d'accord. Très bien. OK. Donc, la caractéristique, c'est cette façon de vouloir les choses uniquement pour soi, rien pour les autres. Cette situation, elle est exacerbée, elle donne Sdom. Sdom, c'est la ville qui est détruite parce que les lois de Sdom étaient que il n'y a rien pour un étranger. Un étranger qui entrait à Sdom, il devait savoir qu'il serait immédiatement dépouillé de tous ses biens et violé. Pour que les gens sachent qu'on ne vient pas comme ça à Sdom. On ne vient pas profiter de... Sdom, c'était une ville riche. Il voulait pas, il ne permettait pas qu'il y ait des gens qui profitent d'une quelconque manière de Sdom. Un égoïsme forcené, quoi, littéralement. Donc ça, c'est la caractéristique des Ouattaolam, parce que c'est comme ça qu'ils sont disqualifiés. Ils ont fait des choses, mais les choses n'avaient aucune dimension de générosité, quoi. Il n'y a pas d'ouverture du tout. Et du coup, une des conséquences, c'est que, par exemple, Israël est complètement solitaire. Alors, c'est un côté positif aussi, mais il n'y a pas de solidarité du tout avec Israël. Alors, on pourrait dire... Du chesed à l'intérieur du clan Israël, il y en a beaucoup, beaucoup, mais c'est aussi un chesed pour Israël. Ce n'est pas un chesed pour les autres, c'est un chesed interne aussi. Nous aussi, on fait du chesed essentiellement à l'intérieur. Alors, la vérité, c'est que tout ce que fait le clan Israël, c'est du chesed. On est en train, c'est pour ça que je vous ai expliqué. Ce que nous faisons, on le fait Pour le monde entier. Alors on est obligé de renforcer le clan Israël pour que le clan Israël soit capable d'avancer. Et on a aussi un souci des au Mont Haolam quand même, des sorties de Sukkot où on a importé 70 corbanotes pour les goïms. Sukkot, on a amené 70 corbanotes pour eux. En ceci étant, on peut se demander si cette caractéristique des Umot HaOlam, des Bnei Noach, si vous voulez, puisqu'elle est présentée comme quelque chose d'essentiel aux Bnei Noach, on voudrait savoir d'où ça vient chez les Bnei Noach. Pourquoi les Bnei Noach ont ça? Pourquoi il y a cette fermeture? Pourquoi il n'y a pas d'ouverture chez les Bnei Noach? Pourquoi ce qu'ils ont fait, Hachem dit, vous l'avez fait que pour vous? Alors, on peut essayer de comprendre un peu ce qui se passe en allant regarder justement sur cette seule chose qu'on sait de Noir, de l'ancêtre de ces Bnei Noir. Cette histoire de cette ébriété de Noir. Quand Noir est sorti de la Teva, il a trouvé un monde complètement détruit. Évidemment. Et du coup, il était un peu effrayé, il a quelque part demandé à Hachem comment c'était possible. Hachem, il dit, c'est maintenant que tu te réveilles? Toi, Noir. Quand tu as construit la Teva, c'est vrai qu'on s'est moqué de toi et que tu as quand même continué de construire. Mais jamais, jamais, tu n'as fait des remontrances aux gens de ta génération pour essayer de les sauver. Tu n'es pas occupé de les sauver du tout. Donc, il y a chez Noah, c'est ça qu'on met en général, chez Noar en face de la démarche d'Abraham Avinu, qui lui, dès qu'il entend que Sdom risque d'être détruit, enfin, va être détruit, il commence à négocier pour des gens qu'il ne connaît pas. Et bon, il y a l'autre là-bas, mais les autres, il ne connaît pas. C'est des gens qui se conduisent pas bien. Il le sait qu'ils se conduisent pas bien. Et malgré tout, il essaye de. Il va négocier. Et s'il ne réussit pas, c'est parce que il n'y a pas 10 personnes, pas 10 tzadikim. Il ne peut pas descendre en dessous de 10. Lui, c'est occupé. Avraham Avinu, tout son travail, c'est un travail de rayonnement. Il rayonne parce que il transmet d'abord à sa famille, puis ensuite de proche en proche, en Nefashot Asherasu Bevaran, etc. Non, rien du tout. Il n'a pas, il s'est pas bougé du tout. Donc il y a déjà quelque chose de l'ordre de la forme d'espèce d'égoïsme, en fait, de la part de Noir. Mais du coup, Noir, il se demande, mais d'où ça vient ça? D'où ça vient que moi, les générations d'avant Abraham, en quelque sorte, ils n'ont pas cette dimension de Chesed. Et en fait, la raison pour laquelle Noé essaie de comprendre, c'est que il est bien conscient que si on ne répare pas ce qui se passait avant le déluge, ben, il y aura de nouveau le déluge. Bon, alors Hachem a dit il n'y aura pas de déluge, ben, il va y avoir un autre problème, mais si on ne répare pas. Donc il faut qu'il trouve qu'est-ce qui n'allait pas, c'est quoi la source, d'où ça vient, justement, tout ça. Pour essayer de le réparer. Et effectivement, il va pas trouver. Alors, il va faire beaucoup d'efforts dans sa recherche, on va en parler, mais finalement, il va pas trouver. Certains disent que la raison pour laquelle il s'est enivré, c'est par désespoir de ne pas trouver. C'est-à-dire que de boire, c'était pas le problème. Boire, c'était la solution pour fuir de cette situation qui était insupportable et donc il voyait pas comment il pouvait arranger les choses. Pas être metaken, chose. Il a bu pour oublier, pour fuir. Le problème, c'est que boire pour oublier, c'est pas une solution. Pas une bonne solution parce qu'après, il arrive un moment où on dessoule. Ça va pas régler le problème. Alors, il a cherché. Il est remonté jusqu'à Adam Harishon. Regardez d'un peu plus près ce qui se passe avec Adam Harishon. Oui, quand Adam a été créé, il n'a pas été créé avec Yetzer Tov et Yetzer Hara intérieur. Le Yetzer Hara, il était à l'extérieur, sous forme du nachash, du serpent, à l'extérieur. Mais Adam n'était pas complètement imperméable à un discours de l'extérieur. S'il avait été, il n'aurait pas fauté. Quand je dis Adam, c'est Adam et Chava. Hein, c'est une chose. Si vous voulez, c'est Adam, c'est pas une paroi verticale complètement gelée, quoi, et sur laquelle on n'a aucune prise, on ne peut pas monter. Il y a une possibilité de je sais pas, de fabriquer des marches pour pouvoir monter, quoi. Donc, il y avait une possibilité de tromper, enfin, d'arriver à. Pour que le Yetzer Hara, le Nahash, arrive à ses fins. La première question qui se pose, c'est. Pourquoi le Nahash s'est attaqué à eux? Les Chazal disent que le Nahash, il a vu la relation d'intimité qu'il y avait entre Adam et Chava, qui ne se cachait pas, il n'y avait pas lieu de se cacher. Ils étaient nus, comme dit le Passouk, ça ne dérangeait personne. Oui, ça ne les dérangeait pas non plus. Il n'y a pas lieu d'être dérangé dans l'absolu. Mais il a vu cette relation d'intimité. Il s'est dit, mais pourquoi pas moi? Comment je n'aurais pas aussi une relation d'intimité avec. Mais certains disent qu'il voulait l'intimité avec Rava. Pour ça, il fallait tuer Adam. En réalité, ce que lui voulait, c'est que ce soit Adam qui mange et qui meurt. Non, ça n'a pas marché, c'est elle qui a. La relation d'Hachem, de Adam avec Hachem. C'est exactement. Quand la Torah elle parle de la relation d'Adam avec Hava, elle dit que Adam yada et Hava. Il connaissait, il a connu Hava. La relation d'intimité, elle est appelée date. Si vous préférez, le date, qu'est-ce que c'est date de quelque chose? C'est être dans l'intimité de la chose. Et donc, Adam, il avait avec Hachem une relation d'intimité. Ce qui nous est demandé à nous d'être dvoukim b'Hachem, on nous dit de coller à Hachem, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire b'chol drachecha da'ehu, connais-le, c'est-à-dire, il faut une relation d'intimité avec Hachem. L'idéal, c'est d'être en permanence dans cette relation d'intimité avec Hachem. C'est-à-dire être au plus près. Donc tout ce qu'on fait, c'est avec Hachem, c'est pour Hachem, si on peut parler, cette relation d'intimité. Non. Il y a une relation d'intimité d'Adam avec Hachem. C'est une relation d'intimité, disons, verticale entre l'homme et Hachem. Et puis, il y a une relation d'intimité entre Adam et Chava, une relation d'intimité horizontale entre deux êtres humains. Ou si vous voulez, l'une dans la transcendance et l'autre, elle reste dans l'immanence. Mais, du fait que Chava, c'est une femme. Donc, il y a une relation d'intimité particulière avec l'intimité avec quelque chose qui est différent. C'est pas une relation d'intimité avec le même. La relation avec Hachem, c'est pas non plus une relation avec le même. Et le Nahash, il a compris, avoir une relation. Il y a des endroits où c'est pas très clair que c'était vraiment obligatoirement Chava qu'il voulait avoir. Lui était un Nahash et un humain. Une relation d'un Nahash avec un humain, c'est aussi une relation avec un autre. Intimité avec un autre. OK. Alors qu'est-ce que le Nahash dit? Bon, il va commencer d'abord. La relation est une relation de parole d'abord. Il parle. Il parle et il va faire parler Chava. Et pour la faire parler, il lui dit, bien entendu, vous êtes dans ce jardin-là, il y a plein d'arbres magnifiques, mais vous n'avez pas le droit d'en profiter. Il sait très bien que ce n'est pas vrai. Mais il veut la faire réagir. Il faut. Donc elle réagit. Elle dit pas du tout. On peut manger de tous les arbres, sauf d'un seul, sauf de El Sadat, toujours. Si elle s'était contentée de répondre comme ça, ça n'aurait rien passé. Seulement, elle a ajouté deux mots. Elle a dit, non, cet arbre, de cet arbre-là, on ne peut pas manger et on ne peut pas le toucher non plus. C'est quoi, on ne peut pas toucher? Hachem n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit de le toucher. Dans Pirkei Avot, c'est marqué que la tâche des Chachamim, c'est de faire des barrières pour qu'on ne se casse pas la figure sur les choses essentielles. Une barrière, ce qui fait que même si par hasard tu franchissais la barrière, tu ne serais pas encore dans le trou. Mais le problème de la barrière, il est presque insoluble. Parce que si vous dites, si celui qui met la barrière dit, c'est une barrière, alors il y aura toujours des gens qui diront, oui, mais moi, je n'ai pas besoin de la barrière. La barrière, c'est pour les ploucs, c'est pour l'autre, mais moi, je n'ai pas besoin de la barrière. Donc, la barrière ne va pas fonctionner. Ou bien alors, on va mettre la barrière sur le même plan que l'interdit lui-même. Si on ne dit pas, alors on va dire, c'est comme l'interdit. C'est ce que fait Chaval. Eh bien, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de toucher. Alors, ça peut avoir ça a des conséquences, voilà. Les conséquences, c'est quoi? Le Nachash, il pousse Chava. Et elle touche. Elle lui dit, tu vois, tu as touché, il ne s'est rien passé. Pas devenu mortel pour autant. En vérité, si Chava avait eu le temps de réfléchir, elle aurait pu lui dire que sa démonstration, elle vaut rien. Parce que quand on te dit, tu ne dois pas toucher, alors il y a deux choses différentes. S'il s'agit d'une ligne à haute tension, effectivement, il n'y a pas de différence si tu touches volontairement ou si on te pousse. La conséquence est la même. Mais si ce n'est pas une ligne à haute tension, c'est un interdit. Et tu es interdit si le toucher volontairement. Moi, je n'ai pas touché volontairement, c'est toi qui m'as poussé. Donc ça prouve rien du tout. Je n'ai rien transgressé. On n'a pas dit que l'arbre, c'était une ligne à haute tension. Elle aurait dû lui répondre à cela. La réponse n'est pas bonne. La démonstration n'est pas bonne. Mais la force du Yetzer Hara, du Nachash, c'est qu'il ne te laisse pas réfléchir tout seul. Il te donne tout de suite l'explication. Il dit, tu vois, ça a touché et ça n'a pas marché. Et à partir du moment où il lui a dit cela, alors le reste du discours qui était la vérité, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison que vous ne puissiez pas en manger. C'est juste que Hachem, il en a mangé. C'est comme ça qu'il est devenu Hachem. Il ne veut pas que vous le deveniez. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui. C'est pour ça qu'il vous a interdit de manger. Et si vous mangez, vous serez comme lui. Et on verra, etc. Vous savoir, etc. Et du coup, comme elle a touché, il s'est rien passé. Alors le problème, ce qui n'est pas très clair, c'est que j'ai l'impression que quand l'interdit, il a été donné. Il a été donné à Adam et Chava. Ils étaient ensemble à ce moment-là. Donc, si barrière il y a, elle sait très bien que c'est une barrière. J'ai touché, même si c'est pas vrai. D'accord, j'ai dit barrière, mais j'ai dit qu'on n'est pas le droit de toucher, mais en vérité, on a le droit de toucher. C'est moi. Je suis aussi partie prenante là-dedans. Moi aussi, je me suis mis une barrière. Et si c'est Adam qui unilatéralement a mis une barrière, bon, alors c'est le problème qu'on a soulevé avec la barrière, c'est si tu lui dis pas que c'est une barrière et que tu mets ça sur le même plan que l'interdit lui-même, ben voilà les conséquences, ça veut dire. Alors du coup, après cela, le fruit devient intéressant. Le fruit devient beau, nechmad, il est peut-être, il va nous permettre d'accéder à la connaissance, etc. Et du coup, elle mange. Mais immédiatement après qu'elle ait mangé, c'est comme ça à chaque fois qu'on fait une avéra. Avant la Avera, quand tu luttes, tu vois, tu passes, etc., etc., etc. Des fois, le désir de la chose est trop fort, on transgresse, et immédiatement après la transgression, toutes les super raisons qu'on avait de pas le faire, elles sont là. Elles n'avaient jamais disparu, c'est juste que pendant le moment où j'ai transgressé, j'étais aveugle ou sourd. Ce moment-là, elle a compris, devenir mortel, elle a dû sentir qu'elle était devenue mortelle. Et du coup, elle s'est dit, mais si moi je meurs, Adam, il reste, va prendre une autre femme. Elle ne voulait pas une autre femme qui mange, lui aussi. Mais si je lui donne du fruit en question, il ne va pas manger. Il sait que c'est interdit. Alors, il y a un midrash qui dit, je crois vous l'avoir déjà dit, qu'elle a réduit le fruit en question en purée. Il lui a donné de la purée, et il ne s'est pas méfié, la purée, et il a mangé le fruit sous forme de purée. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que le Narash a introduit? Parce que maintenant que l'homme a transgressé, le Yetzer Hara extérieur est devenu intérieur. Il est entré. Et maintenant, il est partie prenante dans toutes les décisions qu'on va prendre. Donc, chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il y a un moment où il faut choisir entre le Yetzer Tov ou le Yetzer Hara en nous. Alors, le Viktor Frankl, celui de la logothérapie, là, il dit, il existe un tout petit instant où tout peut balancer. Après, c'est fichu. Faut pas le rater, sans moi, il n'y a qu'un tout petit moment où tu peux choisir bien. Sinon, alors en fait, ce que le Nahash a introduit, en quelque sorte, c'est l'idée de, on n'a pas besoin de la chaîne. On n'a pas besoin de la chaîne. D'avoir mangé, ça nous met sur le même plan que la chaîne. On n'a pas besoin de la chaîne. Donc tu peux y arriver tout seul. Bon, donc il a introduit cette idée de je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin des autres. Je n'ai pas besoin des autres, donc je n'ai pas à m'occuper des autres. Donc, j'ai rien à gagner à m'occuper des autres. J'ai assez à faire avec moi. Mais si je m'occupe de moi, je peux y arriver. Arriver au top. D'une certaine manière, c'est aussi ça qui a donné la tour de Babel. On va y arriver tout seul. Alors, on va prendre l'énergie qu'Hachem nous doit, puisqu'il a créé le monde. Mais après, les valeurs d'Hachem, on n'en a on rien à faire. On va se nasser la Hachem, on va se faire un nom, c'est-à-dire on va se faire notre propre constitution, etc. On va faire la guerre contre Hachem. Donc cette idée-là, effectivement, on se suffit à soi-même. Et on n'a donc rien à gagner. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on gaspille notre énergie pour les autres. Absolument aucune raison. L'autre, il peut y arriver tout seul aussi, donc il se débrouille. Alors, cet égoïsme, en fait, cet égo qui est exacerbé, c'est ça la faute de la marge. Et c'est ça que Noé a compris, comprend, et il ne voit pas comment il pourra réparer ça. Lui-même, il est comme ça. Et c'est quoi le... Pourquoi les fils de Noé lui ont fait ce qu'ils lui ont fait? Pourquoi ils veulent pas un quatrième frère? Ils veulent pas partager? S'il y avait un quatrième frère, le monde, au lieu de le partager en trois, va le partager en quatre. Pas question. On va empêcher notre père d'avoir un quatrième enfant. Toujours la même histoire. Rien pour les autres. Pour nous. Non, pour nous. Éventuellement, je peux essayer de prendre ce qu'il y a à l'autre. Ce que Naan va faire, il va prendre le territoire d'Eretz Israël, qui est un territoire qui est dans le partage, c'est un territoire qui appartient à Shem. Et Naan, qui est un descendant donc de Ham, va faire la guerre contre Shem. Et il va lui prendre le territoire. Ça va devenir Eretz Kenaan jusqu'à ce que les fils d'Israël viennent. Et eux sont les Sémites qui vont récupérer, vont refaire faire la guerre de nouveau. Avec toujours ce grand problème qui est que comment se fait-il Bereshit bara Elohim? On dit Bishvil Reshit, pour ce qui est appelé Reshit. Et une des choses qui est appelée Reshit, c'est Israël. Israël qui est appelé Reshit. C'est-à-dire le monde a été créé pour Israël. Donc c'est ultimement pour Israël. Pas pour Israël au départ, puisque c'était le projet divin, mais ça ne se voit pas tout de suite, puisqu'au début, il n'y a pas d'Israël. Adam, il n'est pas à Israël. Israël est Adam, mais pas Israël. Mais Adam n'est pas Israël. Et le problème, c'est que justement, ce peuple-là, pour lequel le monde a été créé, etc., puisque maintenant c'est eux qui vont réaliser le projet divin, c'est pour ça, c'est ça que ça veut dire. Abraham dit, ce que tu voulais qu'on fasse, que l'humanité fasse, moi je vais le faire avec toi. Il n'a pas de terre. N'y a pas de terre d'Israël. Il n'y a pas une terre qui est, là il y a un bout de désert ou je sais pas, de terre non, une forêt amazonienne qu'il faut défricher, ça va donner du terrain pour les bénis Israël. Ils n'ont pas de terrain. Les bénis Israël, quand ils veulent arriver quelque part, il faut qu'ils fassent la guerre contre les Cananéens. Et pour qu'ils puissent faire la guerre et la gagner, il faut que les Cananéens se soient disqualifiés. Pour que la mesure soit pleine, comme on dit. Une fois que la mesure est pleine, cela mérite d'être chassé, du coup, tu peux faire la guerre et t'installer. Mais ça veut dire qu'Israël n'existe pas. Si on ne chasse pas les autres, alors on est de nouveau dans la situation, quoi. Entre-temps, il y avait des gens qui se sont installés. Et quand on arrive, il faut faire la guerre. Mais la guerre, comme dit Hachem, la guerre, c'est moi. C'est Hachem qui dit qu'il faut faire la guerre. Hachem, c'est Hachem qui fait la guerre. Hachem ilachem lachem, v'atem tacharishon. Hachem va faire la guerre pour vous et vous, taisez-vous. Alors c'est absolument terrible, quoi. Ça ne peut pas marcher autrement. Comment la guerre doit se faire, la guerre, quand il faut faire la guerre, peut-être il faut faire la guerre comme Abraham Avinu. Avinu, quand il fait la guerre, il ne va pas se salir les mains. Il envoie de la poussière et des épis de blé, enfin de la paille, de la paille. Il n'utilise pas des armes. Parce que quand tu utilises des armes, tu te salis les mains. L'Israël doit faire la guerre, mais il faut faire attention à ne pas se salir les mains. C'est évidemment compliqué. Parce qu'il faut être à une certaine hauteur pour pouvoir faire une guerre sans se salir les mains. Pas manger de l'arbre de la connaissance bien et mal, ça veut dire que je sais tout du bien et du mal. Pas besoin d'informations extérieures, j'ai pas besoin de Torah pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Je sais, j'ai accès, je l'ai mangé, donc je sais en moi. Et donc, du coup, j'ai pas besoin du tout de cette intimité avec HM. C'est ça la raison pour laquelle il se saoule. Parce qu'il comprend que il peut pas réparer ça. Il ne sait pas le réparer, en tout cas. Avinu, il commence à le réparer un peu. Va falloir jusqu'à Moshe Rabbeinu pour le réparer vraiment. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Une question, mais autrement.
Merci. Oui, Rav.
Attends, mais il y a une question ici. Et
Oui.
après. Oui.
Est-ce que le marché mange
Ouais.
oui, il n'y avait pas l'impression d'écouter.
Non.
Est-ce qu'on peut dire que la barrière c'est est-ce qu'on pourrait appliquer cette relation de fait que la barrière aussi, quand il nous dit que c'est parce que c'est lui, il n'est pas le parallèle de manger.
Ça. En fait, si on dit comme ça, que j'ai mangé sous forme de purée autrement, il aurait dû s'intéresser, qu'est-ce que tu me donnes à manger, quoi? Tu me donnes à manger quelque chose. On a un problème d'interdit de manger. Donc, tout ce que qu'on me propose à manger va vérifier que j'ai le droit de le manger. C'est ça l'idée. Et quand Hachem lui dit, pourquoi tu. Ah, il dit, c'est elle.
Par rapport à la méthode, ce serait une négligence.
Pardon, le.
Par rapport à la nature, le fait qu'il ait mangé sans vérifier, c'est plutôt une négligence.
C'est une négligence.
Et ça dépend comme une faute
Ah
active.
oui, c'est une faute. C'est possible qu'à l'échelle de Adam Harishon, il n'y a peut-être pas de différence entre Shogeg et Mézid, parce que c'est tellement à la source, tellement proche de la source, quoi, que on voit très bien que Shogeg, nous on apporte un corban pour Shogeg. Pourquoi j'apporte un corban pour Shogeg? J'avais aucune intention. Un manque de vigilance. Il aurait dû être vigilant. Donc chez Adam Harishon, c'est encore exacerbé, quoi. Oui.
Oui, Rav, en fait, je voulais revenir sur. Vous m'entendez, non?
J'entends.
Ok. Sur la thématique de la barrière. Donc, vous avez pris comme exemple que je trouve intéressant la barrière que se serait mis quelque part Ève. Et qui a eu des conséquences effectivement néfastes. Et faire donc un lien avec, d'une part, ce qui est dit dans la Torah, c'est-à-dire tu ne rajouteras pas, tu n'enlèveras pas, et les Pirkei Avot que vous avez présentés qui engagent les rabbanim à justement mettre des barrières autour de la Torah. Alors, comment on fait pour ici
Alors, là-dessus, c'est justement, c'est ça, c'est que il faut le dire comme barrière.
Oui, mais on voit bien, on est tous quand même
On voit que ce n'est
ici
pas parfait.
conscients qu'il y a
On
beaucoup
voit bien
de
qu'il
juifs
faut dire que ce n'est
pratiquants
pas fait.
qui ne font pas la
Ils doivent
distinction.
dire que c'est une barrière.
Oui, mais bon. OK. Dire que c'est une barrière, mais encore une fois, si on regarde ça sur un plan un peu sociologique, on voit bien que cette barrière, dans beaucoup de cas, on arrive difficilement, ou alors en tout cas, elle se confond, cette barrière, avec la sanction dans le vécu, je veux dire, quotidien d'un juif, disons, pratiquant.
La barrière, elle te dit, respecte la barrière, mais sache que c'est une barrière.
Ouais.
La Kamina, la différence entre une barrière et la chose elle-même, c'est dans un cas de doute. Il y a un safek, alors c'est un safek des Rabbanan, on bat le coup là. Mais autrement, une barrière que les Rabbanan ont interdit ou que ce soit interdit par la Torah, c'est la même chose. C'est aussi interdit. Simplement, il faut savoir que c'est une barrière. Il ne faut pas penser que c'est la chose elle-même. Ça veut dire que tu ne peux pas interpréter la barrière. Tu veux essayer de donner l'interprétation des mitzvot pour interpréter la mitzvah elle-même, pas la barrière. Toutes les barrières sont du genre, elles sont interprétables comme barrière, point barre. Barrière. OK. Bon, ça va être là. Monsieur Gaverger. J'ai
Merci à
besoin
vous.
de votre adresse. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer par téléphone ou par mail, comme vous voulez? OK? On n'a pas votre adresse.
D'accord, je vous envoie
Merci.
mon adresse par mail, par
OK,
téléphone.
merci beaucoup.
Colle tout.
D'ailleurs, merci.
À
Bonne
tous, bonne
soirée.
journée.
Merci.
Au revoir à tout le monde.
À demain.
Ah.
Merci.